Nord et ouest, alternance de nuages et d'éclaircies sur le reste du pays. Il fait toujours plutôt doux, 8 à Nice et Paris ce matin, 6 à Toulouse et 7 à Lyon. Cet après-midi, vous aurez 14 degrés à Biarritz, 11 à Tours, 10 à Brest et 8 à Lille.
Très bon réveil sur Radio Classique, il est 6h.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et avec Lénaïque Monnier pour le premier journal.
Après sa fuite de Téhéran il y a quelques jours, un habitant raconte la répression en Iran. Témoignage exceptionnel pour Radio Classique dans un instant. La société civile s'invite au municipal. Des candidatures, vous l'entendrez, peu académiques mais pas si anecdotiques. Et puis la lutte contre l'obésité ne passe pas forcément par les médicaments, mais en apprenant très jeune à bien s'alimenter.
Les ventes mondiales de voitures électriques ont augmenté de 24%. L'an dernier avec 13,6 millions de véhicules immatriculés. Sans surprise, la Chine est désormais le premier marché mondial de l'électrique. Et à la une de votre journal, les tueries en Iran ont pris fin. C'est une annonce du président américain Donald Trump.
Oui, plusieurs informations cette nuit encore. D'abord, l'exécution d'Erfan Soltani, manifestant de 26 ans, a été reportée. En parallèle, le ministre des Affaires étrangères iranien affirme que le régime a pris le contrôle total de la situation. Et Donald Trump qui annonce donc que ces tueries ont pris fin. À ce stade, en tout cas, 3500 manifestants ont été tués depuis le début du mouvement de contestation, sans compter le nombre de prisonniers. Mouvement dont il est difficile de connaître l'ampleur. Les autorités privent depuis des jours la population d'accès à Internet. Les ONG dénoncent un massacre à huis clos. Et c'est donc un témoignage précieux que nous vous proposons ce matin sur Radio Classique, celui d'un Iranien qui a réussi à fuir le pays avant-hier soir, témoin direct donc de la répression sanglante du régime et qui a pu se confier à Zoé Pallier.
Je fais partie des chanceux, nous glisse cet Iranien dont nous tairons le nom pour des raisons de sécurité. Il a fait jouer son réseau et payé un billet d'avion très cher, 20 fois le prix habituel. Mardi soir, il a donc fui Téhéran et la répression.
Je n'ai jamais vu ça. En Iran, on parle aujourd'hui de 12 à 15 000 morts. Juste en allant acheter des fruits l'autre jour, j'ai vu une douzaine de personnes se faire tuer. Certains parents retrouvent les corps de leurs enfants, d'autres non, ils vont les chercher au cimetière où les cadavres arrivent en masse dans les remorques des camions. Ils sont dispersés au sol comme si c'était du sable. Pour récupérer les corps, il faut payer. On paye en fonction du nombre de balles reçues par la victime. Si elle a reçu une balle, il faut payer l'équivalent d'un an de salaire minimum.
Les victimes sont très jeunes, ce sont des femmes et des hommes, souvent âgés de 20 à 25 ans.
Ils continuent à manifester malgré les massacres parce qu'il compte sur le soutien de M. Trump. Tout le monde espère que les États-Unis vont bombarder. Les jeunes Iraniens sont prêts à tout même à mourir pour un changement de régime.
Lui est en sécurité aujourd'hui, frustré d'être loin de l'Iran, mais soulagé de pouvoir enfin témoigner.
Un témoignage recueilli donc par Zoé Pallier pour Radio Classique. L'actualité de la nuit, c'est également Donald Trump qui pense qu'une solution sera trouvée dans le dossier groenlandais tout en reconnaissant un désaccord fondamental avec le Danemark à propos de l'avenir de ce territoire. Et c'est dans ce contexte que plusieurs pays, dont la France, vont participer à une mission militaire européenne là-bas au Groenland. Des militaires français sont déjà en chemin, a fait savoir Emmanuel Macron. La France qui va par ailleurs ouvrir un consulat dans ce territoire où seuls 6 Français sont enregistrés. Ce consulat sera installé le 6 février prochain et sera dirigé par un diplomate de carrière, Jean-Noël Poirier. C'est un signal politique. Olivier Poivre d'Arvor est ambassadeur des pôles et des océans.
Avoir un consulat, c'est donner un signal politique fort de l'importance qu'on attache à la souveraineté de ce peuple, qui est celui du Groenland. Quand c'est un consulat français, c'est un consulat d'un des 5 membres du Conseil de sécurité aux Nations Unies. C'est pas rien. C'est un consulat d'un pays qui est un grand membre de l'OTAN, une grande puissance militaire. C'est un consulat d'un pays qui est un des leaders de l'Union européenne. Aller apporter le drapeau français sur un bâtiment au Groenland, en respectant la souveraineté d'un peuple. C'est un signe pacifique, mais c'est aussi un signe que l'Europe ne peut pas accepter qu'un de ses membres soit menacé dans son intégrité territoriale.
Le monde entier l'a découverte il y a un mois à Oslo, où elle s'est rendue pour recevoir son Nobel de la paix. L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado est attendue aujourd'hui à Washington. Une visite qui intervient presque 2 semaines après la capture du président Nicolas Maduro. Mais même après cette destitution, son rôle politique reste très incertain, Marc Tédé.
L'administration Trump a toujours contesté la réélection de Nicolas Maduro au Venezuela et même si Maria Corina Machado avait été désignée candidate de l'opposition lors de cette présidentielle avant d'être empêchée de se présenter, son heure n'est pas encore arrivée. Elle a jusqu'à présent été écartée par l'administration Trump pour prendre des responsabilités dans son pays, d'autant que Washington n'entend pas pour le moment pousser pour un changement de régime à Caracas. Le président américain préfère pour l'heure, discuter avec les autorités en place. Lundi, Donald Trump s'est dit favorable à une entrevue avec Delcy Rodriguez, la présidente vénézuélienne par intérim. Il précise que Washington et Caracas travaillent vraiment bien ensemble. Les discussions portent notamment sur les questions pétrolières.
Et justement, la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a confirmé avoir eu une conversation téléphonique avec Donald Trump, estimant que l'appel avait été long, productif et courtois. Retour en France, dans deux mois, il sera temps exactement de retourner aux urnes. Le compte à rebours est enclenché pour les candidats à quelques 35 000 communes. Si tous les candidats aux municipales ne sont pas encore connus, une chose se dessine. À Lyon, à Biarritz ou encore à Bordeaux, ce sont d'anciens sportifs ou des célébrités de la télé qui se présentent comme tête de liste. Un phénomène qui en dit long sur le paysage politique. Victoire Fort.
Jean-Michel Aulas, ancien président de l'OL, se présente à Lyon. L'ex-rugbyman Serge Blanco à Biarritz. Des novices en politique, mais pas des inconnus, qui ont l'avantage de savoir s'exprimer devant une caméra. Alors que 10% des Français seulement ont confiance dans les partis, selon l'Ipsos, leur inexpérience politique peut devenir un atout. Sébastien Michon, directeur de recherche au CNRS.
Les partis politiques se mettent moins sur le devant de la scène et ces personnalités vont permettre de régénérer un peu une offre politique en présentant un visage différent. Ce sont toutes, d'ailleurs, des personnes qui souhaitent une alternance et donc qui vont critiquer les équipes sortantes.
La nouveauté en 2026, c'est que ces candidats issus de la société civile sont tête de liste et investis par des partis de gouvernement qui sont en réalité bien présents avec des conseillers ou des cadres qui les entourent.
On est quand même dans un espace politique qui est extrêmement structuré. Faire campagne, ça s'apprend pas, comme ça, sur le tas. Et donc, les personnalités issues de la société civile ne dirigent pas tout. Et le gros des troupes, en fait, ce sont les militants des partis ou des personnes dans les réseaux partisans.
Habile pour les partis qui, avec ces nouveaux candidats, pourraient bénéficier d'une prime à la nouveauté.
Sans surprise, les deux motions de censure déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National ont été rejetées, ce qui va permettre de laisser place à la discussion budgétaire sur laquelle le gouvernement est toujours à la recherche d'un compromis. Et puis en bref, une centaine d'agriculteurs de la Confédération Paysanne sont parvenus à entrer hier dans une annexe du ministère de l'Agriculture. Ils l'ont occupée pendant une heure avant d'être délogés. 50 personnes ont été interpellées.
Le gouvernement a présenté une feuille de route nationale pour freiner la progression de l'obésité en France et améliorer la prise en charge.
Aujourd'hui, près d'un quart de la population est concernée. 5% des enfants sont considérés comme obèses. Les autorités souhaitent donc mettre l'accent sur le repérage le plus tôt possible, car tout commence très jeune. Alimentation, habitudes familiales, environnement, la petite enfance est un enjeu majeur. Voilà ce que nous dit Anne-Sophie Joly, qui est présidente du Comité national des associations d'obèses.
Ce sont les gens les plus précaires, les plus vulnérables qui sont le plus touchés. On a des pertes de transmission de cuisiner. Il y a eu une perte de transmission intergénérationnelle sur ce sujet-là. Les parents qui sont en vulnérabilité font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. L'alimentation qui est la plus transformée, c'est celle qui est la plus impactée en termes de qualité sur du sucre, du gras et du sel. Et je rappelle, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Parce que moi, j'en viens. Il fallait faire un choix entre manger et manger quoi et faire manger tout le monde. C'est pas simple.
Les épargnants connaissent trop aujourd'hui le nouveau taux du livret A applicable au 1er février. Il va baisser à nouveau, probablement de 1,7 à 1,4%. Chute vertigineuse. Il y a encore un an, il affichait 3% d'intérêt. Et cette baisse, pourtant, ne devrait pas pousser les Français à mettre moins de côté. Ils feront tout simplement différemment. L'explication de l'économiste Éric Dor.
Il y a quand même une série de facteurs anxiogènes qui entretiennent quand même une accumulation d'épargne de précaution de la part des Français, des inquiétudes sur l'emploi, des inquiétudes sur la fiscalité vu la dégradation des finances publiques, des incertitudes sur l'activité économique générale à cause de tous les troubles géopolitiques qui nous menacent. Mais par contre, il pourrait très bien bouder le livret A au profit d'autres instruments d'épargne, par exemple au profit de produits proposés par les compagnies d'assurance pour chercher du rendement.
Et puis nous l'évoquions ici même hier, Elon Musk vient de déployer finalement des mesures pour empêcher son outil d'intelligence artificielle Grok de déshabiller des personnes réelles. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
Est-ce qu'on doit prendre les bonnes résolutions du patron de X pour argent comptant ?
Eh bien les premières réactions sont mesurées. L'Union européenne fait savoir qu'elle évaluera attentivement ces changements car la formulation utilisée par X est floue. Elle précise par exemple qu'il s'agira d'un blocage géographique dans les pays où ces pratiques sont illégales. Et si les autorités sont méfiantes, c'est parce que les précédentes réponses du réseau social n'ont pas été jugées satisfaisantes. Au début du mois, il avait annoncé que seuls les abonnés payants auraient accès à l'éditeur d'images et donc à la possibilité de déshabiller des personnes. Une insulte pour les victimes avait alors réagi le Royaume-Uni. X était ensuite resté silencieux malgré la multiplication des protestations, malgré les menaces de sanctions officielles après l'ouverture d'enquêtes dans plusieurs pays, y compris en France. La dernière a été ouverte en Californie hier soir. De son côté, Elon Musk affirme hier après-midi que son intelligence artificielle était programmée pour respecter la loi, en ajoutant « Il peut arriver que des tentatives de piratage malveillant entraînent un comportement inattendu ». Dans la soirée, il se réjouissait que l'application Grok soit en tête des téléchargements dans plusieurs pays.
Merci Augustin Lefebvre.
C'était le journal de Lénaïque Monnier. Prochaine édition, ce sera tout à l'heure à 6h30 avec Charles Bonner. À suivre ce matin, dans quelques minutes, nous parlerons des aides agricoles avec l'exemple de la Nouvelle-Zélande. La fin des subventions agricoles dans le pays en 1984 a changé la donne, nous expliquera Nathalie Janson dans les classiques de l'économie. Il est 6h12 sur Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et à la une de l'économie, le surendettement des ménages a nettement augmenté l'an dernier en France. Le nombre de dossiers déposés à la Banque de France a augmenté de pratiquement 10%. C'est trois fois plus que prévu. Conséquence de la dégradation du pouvoir d'achat depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le nombre de dossiers de surendettement avait déjà augmenté de pratiquement 11% en 2024. On y revient en détail dans le journal de l'économie. Les ventes mondiales de voitures électriques ont augmenté de 24% l'an dernier avec 13,6 millions de véhicules immatriculés. Le chiffre dépasse même les 20 millions si on ajoute les modèles hybrides. Sans surprise, la Chine est désormais le premier marché mondial de la voiture électrique avec une croissance de 26% l'an dernier. En revanche, le marché américain a fait pratiquement du surplace avec une hausse des ventes de seulement 1%. L'augmentation des droits de douane américains a permis de réduire le déficit public des États-Unis l'an dernier. Il atteint 1670 milliards de dollars pour l'année 2025, c'est-à-dire 330 milliards de moins que sur l'année précédente. Le réarmement de l'Europe doit-il être financé par une dette commune ? Le directeur général de la Deutsche Bank y est favorable sur le modèle des Corona Bonds, c'est-à-dire l'émission obligataire européenne qui avait été réalisée au moment de la crise sanitaire. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Alors c'est une prise de position importante puisqu'en Allemagne, l'idée d'emprunter en commun avec les autres pays européens est véritablement un sujet tabou.
Oui, alors déjà culturellement, l'idée d'investir dans la défense déclenche en Allemagne quelques réticences. Alors, autant dire que mutualiser un effort financier à l'échelle européenne est très loin de faire l'unanimité. Même le patron de la Deutsche Bank a pris des précautions pour l'annoncer. Il envisage cette option pour des situations exceptionnelles qui concernent l'Europe dans son ensemble. Alors ce fut le cas, c'est vrai, pendant la crise sanitaire. Plus récemment, fin décembre, les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne se sont également accordés pour un prêt sans intérêt à l'Ukraine de 90 milliards d'euros. Or, la classe politique allemande commence à se diviser sur la pertinence de privilégier l'intérêt européen à l'intérêt national. Le chancelier Friedrich Merz est d'ailleurs critiqué pour avoir rompu juste après son élection en février une promesse de campagne en réformant la sacro-sainte règle du frein à la dette. L'AFD, le parti d'extrême droite qui progresse dans les sondages, est totalement opposé à une dette commune européenne, tout comme l'aile conservatrice de la CDU, deux partis qui pourraient obtenir le soutien des Allemands lors des prochaines élections prévues cette année dans plusieurs Länder.
Merci beaucoup. Eric Mauban, la grève des médecins libéraux se termine aujourd'hui. Elle aura duré 10 jours. Les médecins entendent protester contre certaines mesures contenues dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026. Mais la rémunération des médecins est-elle le véritable problème, la raison de notre déficit abyssal du système de santé? On en parlera ce matin dans les voies de l'économie à 7h15 avec l'économiste Frédéric Bizard, spécialiste du secteur de la santé. Bientôt 6h15 sur Radio Classique. L'invité de Comment j'ai réussi, Antoine Bouchet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Huggy. Vous proposez des produits du quotidien en grand format, par exemple du liquide vaisselle en bidon de 5 litres, des jus de fruits en pack de 3 litres, du gel lavant pour bébé en bidon de 5 litres également. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de sortir des formats habituels qu'on trouve dans les magasins?
Parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui l'offre en produits de grande consommation, on voit qu'elle est essentiellement regroupée autour de produits de petit format. Voilà, c'est le grand business model de la grande distribution. Hein. C'est beaucoup de produits par mètre linéaire. L'objectif, c'est d'acheter toujours plus. Et nous, on s'est dit que finalement, il fallait peut-être revenir un peu aux fondamentaux, proposer des formats professionnels à des prix plus proches des professionnels pour les particuliers. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de problèmes de pouvoir d'achat, d'écologie, etc. Finalement, c'est une manière assez simple d'y répondre. Voilà, moins de packaging, plus de produits pour un même prix. Voilà, c'est notre manière à nous d'aider les Français au quotidien.
Est-ce que c'est réellement moins cher en termes de prix au litre ou de prix au kilo?
Ah oui, complètement, oui. Sur des gels douches, on peut avoir un écart de prix jusqu'à 50% versus des marques assez connues en grand format. Voilà.
Est-ce que les marques sont facilement d'accord pour proposer des produits au format XXL? C'est forcément moins intéressant pour elles en termes de tarifs?
Alors, pas forcément. Le coût de produire en grand format pour des industriels, finalement, revient un peu moins cher. Et nous, aujourd'hui, on s'adresse essentiellement à des marques qui ont vocation à faire des produits plutôt bio, éco-certes, etc. Enfin, avec une démarche qualité. Du coup, des marques un peu plus engagées qui ont l'habitude de travailler des formats un peu plus vrac, déjà.
Aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas forcément la place de stocker chez eux de grandes quantités de produits, en tout cas dans les grandes villes. Le prix de l'immobilier ne permet pas d'avoir beaucoup de place. Du coup, à qui s'adresse votre offre?
Eh ben, notre offre, en fait, elle s'adresse à toute la France qui a pas forcément d'offre de livraison de courses à domicile.
Donc plutôt en zone rurale.
Exactement, périurbaine, rurale. Voilà, des gens qui, pour faire leurs courses, vont soit au supermarché, soit au drive, mais qui revient finalement à se déplacer.
Donc pour éviter les déplacements.
Exactement.
C'était la première idée.
Voilà.
Est-ce que le consommateur a la même perception du produit en termes de valeur et de qualité lorsqu'il s'agit d'un grand format? Les codes du marketing nous ont appris qu'un produit en petite quantité a forcément un aspect plus luxueux, plus haut de gamme.
Mais complètement, c'est là tout le travail en fait de notre marketing. Voilà, c'est d'expliquer aux gens que finalement c'est le même produit, juste en un peu plus grand. Alors certaines personnes aiment beaucoup parce qu'ils ont ce sentiment de ne pas manquer, de faire des réserves. Voilà, on fait le plein. Vous savez, quand on dit on fait le plein, on fait vraiment le plein là pour le coup.
À condition de ne pas avoir un bidon de 5 litres posé sur le bord de sa baignoire ou de son bac à
douche. Non. Du coup, l'idée, c'est qu'après, on a toute une petite gamme de dispensaires. Voilà, c'est consommé un petit peu différemment.
Et il y a évidemment une vraie dimension écologique, hein, moins d'emballage, moins de livraison. Vous l'avez dit, ça, c'est un argument de vente que vous mettez en avant.
On le met en avant. Après, je pense que le choix final se fait essentiellement sur la qualité. On le voit aujourd'hui, les gens sont très sensibles à la composition des produits. Il y a de plus en plus de choses qui sortent aujourd'hui sur les résidus qu'on peut trouver dans certains types de produits alimentaires, d'hygiène, de grande conso. Et donc, finalement, la priorité numéro un aujourd'hui des consommateurs, c'est bien consommer.
Comment fonctionne votre réseau de distribution? On commande en ligne, on est livré à domicile?
Exactement, donc on va sur huggy.co, c'est haut.
On commande. Huggy, ça s'écrit H-U-G-Y.
H-U-G-Y.co. Voilà, on commande, on se fait livrer en 2-3 jours ouvrés partout en France.
Pour l'instant, vous avez un nombre de références assez limité. Quels sont vos projets de développement?
Là, on va avoir à peu près 150 références. L'idée, c'est de suivre un petit peu les besoins de notre clientèle. Donc, on demande à chaque fois quel produit vous aimeriez retrouver en grand format, parce que forcément tous les produits ne sont pas compatibles avec le grand format. Et notre ambition à terme, c'est pas d'avoir 100 000 références, hein, c'est de limiter justement le catalogue aux essentiels, au fond de placard en fait, et de sélectionner à chaque fois une ou deux marques top qualité selon nous, hein, et selon les consommateurs.
Mais ce ne sont pas des marques qu'on connaît déjà?
Certaines, comme l'Arbre Vert par exemple, oui. Marque assez connue.
Mais il y a aussi des marques qui sont relativement peu connues.
Exactement, c'est aussi notre rôle d'aller chercher des plus petits producteurs qui ont l'habitude normalement de travailler des circuits locaux bio, et du coup nous on leur permet d'accéder à un marché national.
Mais est-ce que vous aviez essayé de travailler avec des grandes marques, de leur proposer ce marché du grand format?
Alors, on les connaît, on les a pas vraiment approchés pour l'instant. Alors, il y a une logique de volumétrie. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore assez gros pour pouvoir proposer des grandes marques comme ça, qui répondent à nos critères de qualité, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, finalement, en travaillant avec des plus petits, qui sont contents de travailler avec nous. Et puis bon, on verra plus tard.
Quel est le profil de vos clients, ceux qui achètent?
Beaucoup de familles, des nombreuses. Retraités aussi. Ouais, familles. Alors nombreuses. On a des familles de 3, 4, 5, enfin assez larges. Mais finalement beaucoup de gens en fait en maison essentiellement. Donc on a vraiment beaucoup de gens ruraux. On a des agriculteurs. On a vraiment toutes les catégories socioprofessionnelles qui commandent. Et en fait on se rend compte que cette logique qualité, grand format, un peu fondament. Enfin voilà, on revient aux fondamentaux. Bah plaît beaucoup.
C'est-à-dire acheter du produit au lieu d'acheter du plastique et de l'emballage. Est-ce qu'il y a un marqueur générationnel? Est-ce que les jeunes sont plus attirés par ce concept?
Je dirais que aujourd'hui, notre clientèle, elle est plutôt entre 40 et 60 ans.
Ah oui.
Ouais.
Pas très jeune.
Enfin, ouais. le gros. Après, on a essentiellement des gens, ouais, entre 40 et 60 ans, et avec aussi des plus jeunes couples. Après, je pense que consommer grand format demande de stocker, demande d'acheter un petit peu plus au démarrage. Donc forcément, on s'adresse à des gens voilà qui sont déjà peut-être plus établis,
voilà, qui sont
déjà
très justes en termes de pouvoir d'achat à la fin du mois, quoi.
Oui, alors pour ça, on propose des paiements facilités. Donc là, on travaille sur un étalage en fait sans frais du paiement d'achat. Donc ça permet de réduire en fait la facture à l'achat, et finalement lissé sur la durée de consommation, on se rend compte qu'on dépense moins qu'en allant au supermarché.
Merci beaucoup Antoine Bouchet d'être venu ce matin, cofondateur de Hugi. Vous proposez, je le rappelle, des produits du quotidien en grand format, approche intéressante, hein, liquide vaisselle, bidon de 5 litres ou du jus de fruits en pack de 3 litres. Merci beaucoup, il est 6h21, merci. Nathalie Janson nous a rejoint pour les classiques de l'économie.
Stéphane Pedrazzi sur Radio Classique.
Et ce matin, Nathalie nous emmène en Nouvelle-Zélande.
Avec GSF Propreté et Services, acteur du service aux entreprises, et sa filiale Pénélope, leader de l'accueil.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Stéphane.
Ce matin, on va revenir sur une expérience économique qui est devenue un cas d'école, la fin quasi totale des subventions agricoles en 1984, c'était en Nouvelle-Zélande. Réforme radicale dont le contexte et les enseignements font directement écho au débat européen sur la politique agricole commune.
Oui, au début des années 80, la Nouvelle-Zélande est au pied du mur. Ses finances publiques sont dégradées. La dette publique atteint 65% du PIB, un niveau élevé pour une petite économie ouverte très dépendante de l'extérieur. Le déficit budgétaire dépasse 6% du PIB et l'inflation n'est pas maîtrisée, elle est proche de 15% sur plusieurs années. Le pays est en situation de stagflation avec une perte de compétitivité et de crédibilité internationale.
Et pourquoi à l'époque est-ce que la Nouvelle-Zélande avait choisi de viser directement l'agriculture ?
Eh bien, l'agriculture est l'un des secteurs les plus subventionnés du pays à cette époque. Avant 84, elle vit sous perfusion publique. Les prix sont garantis sur la viande, les produits laitiers. On a des subventions directes aux revenus, des aides aux engrais, des prêts bonifiés, des avantages fiscaux et des soutiens à l'exportation. Au début des années 80, presque 40% du revenu agricole provient directement ou indirectement de l'État. Pourtant, la part de l'agriculture dans le PIB stagne autour de 6-7%, signe que les subventions soutiennent surtout des structures peu productives plutôt que de la création de valeur.
Et concrètement, qu'est-ce qu'avait décidé le gouvernement néo-zélandais en 1984 ?
Alors, entre 84 et 87, le gouvernement travailliste supprime plus de 90% des subventions agricoles, quasiment du jour au lendemain. L'objectif est clair, réduire rapidement le déficit public, casser l'inflation et laisser les prix jouer leur rôle d'allocation des ressources. Le choc est donc brutal, les revenus agricoles chutent dans un premier temps, certaines exploitations évidemment endettées disparaissent et l'inquiétude est réelle dans les campagnes. Contrairement aux craintes, il n'y a pas d'exode massif. Entre 5 et 10% des agriculteurs quittent le secteur, principalement ceux qui sont les plus endettés, les plus dépendants aux aides. Le nombre d'exploitations diminue, mais ce qu'on remarque, c'est que surtout, elles se transforment en profondeur.
Et c'est très intéressant que ce soit un gouvernement travailliste qui ait décidé de prendre cette décision. Quelles ont été les conséquences de cette décision radicale? Quels secteurs ont décliné et lesquels
modèles, s'il y en a eu, ont émergé?
Alors, le grand perdant, c'était l'élevage ovin extensif, historiquement subventionné. Le cheptel de moutons, effectivement, passe d'environ 70 millions de têtes au début des années 80 à moins de 30 millions aujourd'hui. Mais ce recul libère des ressources qui vont se redéployer vers des activités plus productives. Le secteur laitier devient, lui, le moteur de l'agriculture néo-zélandaise. Les exploitations se concentrent, investissent et gagnent en productivité. Aujourd'hui, les produits laitiers représentent presque 30% des exportations totales du pays. L'horticulture connaît également un essor spectaculaire, en particulier les kiwis, les pommes, avocats et fruits à forte valeur ajoutée. La viticulture, qui était totalement marginale en 84, devient un secteur exportateur dynamique, générant aujourd'hui plus de 2 milliards de dollars néo-zélandais par an. Les productions animales de qualité, bœuf premium, produits transformés, progressent aussi fortement.
Alors parfois on dit qu'il vaut mieux des mesures radicales et douloureuses sur le moment pour en tirer les bénéfices à long terme. Est-ce que ça a été le cas pour l'agriculture néo-zélandaise?
Et les chiffres effectivement parlent d'eux-mêmes. Après la réforme, la productivité agricole progresse à un rythme annuel de 4 à 5 %, presque trois fois plus vite qu'avant 84. La part directe de l'agriculture dans le PIB est toujours à peu près la même, autour de 6%, avec moins d'exploitation, davantage de valeur créée et une dépendance quasi nulle aux aides publiques qui devient 1% du revenu agricole. On voit bien que les subventions ont longtemps permis de sécuriser les revenus et de stabiliser les territoires agricoles, mais l'exemple néo-zélandais rappelle une leçon clé. Lorsqu'elles deviennent permanentes, les aides finissent par figer les structures, retarder les ajustements et peser durablement sur les finances publiques. La question n'est donc pas de savoir s'il faut soutenir l'agriculture, mais comment et dans quel objectif. Subventionner pour préserver le passé ou accompagner la transition vers des modèles plus productifs, plus résilients et mieux alignés sur la demande. La Nouvelle-Zélande a tranché sous la contrainte. En Europe, avec la PAC, le choix reste donc ouvert.
Et c'est sans doute un sujet dont on aura l'occasion de reparler. Merci beaucoup Nathalie Janson pour cet exemple de l'équivalent de la PAC venu de l'autre bout du monde. À suivre, l'actualité musicale avec Laure Maison. L'actualité musicale pour rejoindre le journal de 6h30, c'est avec Laure Maison. Bonjour Laure.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez d'un des brillants chefs de la nouvelle génération.
Il a une trentaine d'années et poursuit un beau parcours en dirigeant de grandes phalanges françaises et internationales. Pierre Dumousseau aura bientôt son propre orchestre puisqu'il sera, dès la saison prochaine, dès la rentrée prochaine, le directeur musical de l'Opéra de Rouen. Ce sera d'ailleurs son premier poste de directeur musical. Une maison et un orchestre qu'il connaît bien, qu'il a retrouvé en décembre dernier à l'occasion d'un concert capté par nos micros et qui sera diffusé ce dimanche à 20h sur notre antenne, avec un programme aux accents russes particulièrement narratifs, Roméo et Juliette de Tchaïkovski ou encore l'envoûtant Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Un programme qui mettait en valeur les belles couleurs et puis ses qualités narratives justement de cet orchestre qui a autant l'habitude de la scène que de la fosse. Et d'ailleurs, c'est cette double casquette d'orchestre d'opéra et de concert qui correspond justement aux attentes de Pierre Dumousseau, lui qui poursuit également une double carrière dans le lyrique et dans le symphonique. On l'écoute.
C'est fondamental pour moi, je ne pourrais me passer ni de l'un ni de l'autre exercice. J'aime suprêmement ce petit frisson d'être caché derrière le mur de la fosse au service d'une œuvre gigantesque qui nous dépasse tous, d'une œuvre d'art totale et qui fait appel à tant de corps de métier conjugués, réunis et harmonie. Et en même temps, c'est un exercice fondamental pour un musicien de se retrouver au centre de la scène aussi et de s'exprimer pour soi. Pour moi qui suis une bonne partie de l'année un musicien de fausse au service d'œuvres littéraires la plupart du temps, ou alors inspirées d'œuvres picturales, ou en tout cas au service d'une dramaturgie, le support d'un narratif dans une œuvre, c'est quelque chose qui aide. Alors en vérité, le narratif, il nous incombe aussi de le trouver, de le chercher, de le raconter ou de l'inventer dans la musique dite pure. Donc j'aime pratiquer ces deux pans-là de la musique. Mais oui, c'est sûr que Les Mille et Une Nuits, Shakespeare, voilà des sources d'inspiration acceptable.
Musique.
petit extrait de l'ouverture de Fantaisie, Roméo et Juliette de Tchaïkovski, par Pierre Dumousseau et l'orchestre de l'Opéra Rouen-Normandie, en concert le 5 décembre dernier à Rouen, et un concert que nous vous proposons de revivre dimanche à 20h sur Radio Classique.
Pierre Dumousseau avec Laure Maison, ce soir à 20h dans le journal du Classique. Merci Laure.
Très belle journée à tous et à ce soir.
Dans un instant, le journal de 6h30 avec Charles Bonner, mais d'abord un coup d'œil au ciel de ce jeudi. Bonjour Charles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Des nuages et de la pluie à l'ouest.
Oui, la grisaille qui domine ce matin un peu partout, mais c'est la pluie qui est majoritaire au nord-ouest, Bretagne et côte de la Manche dans l'après-midi. Les pluies persistent avec du vent, ailleurs le soleil retrouve sa place. Les températures 9 à Lille, 12 à Strasbourg et 13 à Montpellier.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique. Avec Stéphane Pedrazzi.
Et Charles Bonner pour le journal.
Avec à la une ce matin des militaires européens envoyés au Groenland. Un déploiement modeste mais très symbolique à l'heure où Donald Trump continue de vouloir prendre le contrôle du territoire. En Iran, aucune pendaison n'aura lieu aujourd'hui et demain. L'Iran qui dit avoir repris le contrôle de la situation, mais même si l'information reste toujours difficile à vérifier. Et puis une corrélation entre disparition des oiseaux et achat de pesticides identifiés dans une étude menée par le Muséum d'Histoire Naturelle grâce à un croisement des données.
Et dans l'économie, le surendettement des ménages continue de progresser en France. Le nombre de dossiers déposés à la Banque de France a augmenté de 10% l'an dernier. C'est trois fois plus que prévu. La France va participer à une mission militaire au Groenland.
Et des troupes sont déjà en route, selon Emmanuel Macron. Des unités de montagne habituées au froid. Sur place, ils rejoindront des militaires d'autres pays. Bonjour Pierre Pilet.
Bonjour.
Officiellement, c'est une opération de reconnaissance.
Il s'agit d'un petit détachement militaire des troupes de montagne. Le ministère français des armées précise que cette opération se fait dans le cadre de l'exercice danois Arctic Endurance, des entraînements dans le grand froid, les températures pouvant descendre autour de moins 25 degrés au Groenland. Un déploiement qui commence dès aujourd'hui et va durer jusqu'à samedi, selon l'Allemagne, l'un des autres pays ayant annoncé sa participation. 13 membres de la Bundeswehr, l'armée allemande, vont se rendre sur place. Le ministère allemand parle d'une opération de reconnaissance en vue d'une possible aide future, notamment dans la surveillance maritime. La Suède et la Norvège participent aussi à cette opération.
Et cette mission a été annoncée hier soir, juste après une réunion entre l'administration Trump et des responsables danois et groenlandais.
Réunion très intense, selon la chef de la diplomatie du Groenland, territoire autonome danois, rappelons-le. Nous avons toujours un désaccord fondamental, déclare pour sa part le ministre des Affaires étrangères du Danemark, estimant que Donald Trump veut conquérir le Groenland. Malgré ce pessimisme, il affirme qu'il souhaite travailler en étroite collaboration avec les États-Unis. Donald Trump n'a pas participé à la réunion, mais il a répété hier que les États-Unis ont besoin du Groenland. Pour des raisons de sécurité nationale, il est vital pour le Dôme d'Or, affirme le président américain, le Dôme d'Or qui est un projet de bouclier antimissile. Je pense qu'une solution sera trouvée, veut croire Donald Trump. Le Danemark, de son côté, annonce qu'il renforce sa présence militaire au Groenland avec des moyens aériens et navals notamment.
Et ce matin, un conseil de défense se tient à l'Elysée à 8h sur le cas du Groenland, mais aussi sur celui de l'Iran. Dans la foulée, Emmanuel Macron se rendra à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, sur la base militaire pour la présentation de ses vœux aux armées. Et dans son discours, il reviendra donc aussi probablement sur la situation en Iran, où les tueries ont pris fin, dit Donald Trump, et où les exécutions n'auront finalement pas lieu. Une affirmation confirmée partiellement par l'Iran. Aucune pendaison n'aura lieu aujourd'hui ou demain. L'Iran, qui revendique avoir repris le contrôle total de la situation après 2 semaines et demie de manifestations et des milliers de morts. Un bilan évoque 3500 selon une ONG. Ce pourrait être plus, car il est difficile de le vérifier. Comme nous l'avons dit ces derniers jours, Internet est coupé en Iran. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, les fausses vidéos sont partout. Alors pour tenter de démêler le vrai du faux, Lucie Dupressoir est allée rencontrer les équipes de l'AFP, l'agence France-Presse, qui nourrissent une partie du contenu des médias.
Devant leurs ordinateurs, silence et concentration pour ces journalistes qui authentifient les images en provenance d'Iran. La première question qu'ils se posent, ont-elles été générées par intelligence artificielle ? Pour y répondre, l'AFP a développé son propre logiciel.
On va télécharger une photo. On voit un char avec une personne tenant une arme.
Dounia Mayedine est journaliste éditrice au service vidéo.
L'outil détecte 79% d'IA. Il faut savoir qu'à partir de 70%, on considère qu'il y a de gros doutes.
Donc là, typiquement, cette image-là, vous l'achetez à la poubelle.
Exactement.
Pour les images validées, il faut ensuite s'assurer qu'elles soient récentes.
On se base sur cet outil qui va en fait faire plusieurs captures d'écran à partir de la vidéo et faire une recherche d'image inversée et voir en fait si ça retrouve dans différentes bases de données une occurrence plus ancienne.
Dernière étape, identifier le lieu exact de la scène en retrouvant des éléments, un bâtiment par exemple, sur des cartes immersives en ligne comme Google Earth.
C'est dur parce que les images sont floutées pour, bien entendu, des raisons de sécurité. Donc, des fois, la procédure de vérification peut prendre des heures.
En une semaine, Dounia Mayedine a authentifié 80% des images sélectionnées sur les réseaux sociaux.
Le reportage de Lucie Dupré, soir. Difficile donc de savoir si les manifestations sont toujours aussi importante. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que la répression a été violente. On l'entendra dans le journal de 8 heures, ce témoignage édifiant d'un habitant de Téhéran qui a fui en Turquie. Une répression menée par les gardiens de la révolution. Les Pasdaran, un pilier du régime qui détient une partie du pouvoir. Bernard Wourcade est le directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran.
Les gardiens de la révolution et d'autres forces sont en place. Les gardiens de la révolution, c'est un pluriel. Certains sont des combattants, certains sont des gens qui étaient avec le Hezbollah, d'autres sont des businessmen, d'autres sont des gestionnaires, d'autres des ministres, d'autres des chefs d'entreprise. C'est une nébuleuse extrêmement vaste. Et là-dedans, un certain nombre sont prêts à chercher quelqu'un parmi eux, capable de contrôler les va-t-en-guerre, de contrôler les religieux aussi. D'autres disent, écoutez, les sanctions écrasent le pays, le nucléaire est une menace, on a eu une guerre avec Israël, on peut pas s'amuser à avoir des guerres tous les deux matins. Il faut trouver une solution avec les États-Unis.
Un propos recueilli par Fabien Albert et cette nuit, Lufthansa, la compagnie aérienne, annonce contourner désormais les espaces aériens iraniens et irakiens. À Gaza, la deuxième phase du plan américain va débuter. Les mouvements palestiniens s'accordent sur un comité de gouvernance transitoire. Le Hamas et le djihad islamique qui contrôlent Gaza s'engagent à permettre à ce comité d'assumer immédiatement ses missions. Cette deuxième phase prévoit aussi le désarmement du Hamas en plus du retrait des troupes israéliennes.
Il est 6h36. 50 personnes sont en garde à vue après une manifestation d'agriculteurs.
Menée à Paris par la Confédération Paysanne, ils sont entrés armés de banderoles, de mégaphones et accompagnés de nombreux journalistes dans une annexe du ministère de l'Agriculture. Une action malgré les annonces du gouvernement que la Confédération Paysanne estime calquée sur les demandes de la FNSEA, le syndicat majoritaire. Et voilà une étude, une nouvelle qui pointe le rôle des pesticides sur la disparition des oiseaux. Là où les premiers sont le plus vendus, les seconds reculent. L'étude menée par le Muséum d'Histoire Naturelle a croisé les deux données pour obtenir cette corrélation d'Inadrof.
Le constat est sans appel. Lorsque les achats de pesticides sont importants dans un département, les oiseaux sont de moins en moins nombreux, car ces substances chimiques ont des effets très néfastes sur ces espèces et leurs écosystèmes. Anne-Christine Monet, écologue dans un laboratoire du Muséum d'Histoire Naturelle.
Les pesticides peuvent avoir des effets très divers sur les oiseaux. On peut avoir des effets directs avec des toxicités aiguës ou même chroniques qui s'étalent dans le temps, par exemple lors d'ingestion de graines contaminées. Et puis on a des effets indirects. Les pesticides, c'est aussi potentiellement moins d'insectes dans les champs, donc moins d'insectes pour nourrir les petits. Et donc, petit à petit, c'est la survie ou la reproduction des oiseaux qui est affectée donc, par ces produits phytosanitaires.
Une situation dramatique pour les oiseaux, mais pas seulement, selon Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux.
L'oiseau est l'indicateur de l'état de la biodiversité. Là où ces populations s'épanouissent, c'est tout le cortège du vivant. Les petits insectes, les batraciens, les mammifères et autres, qui se portent bien. Dès lors que les populations disparaissent, c'est la biodiversité qui s'estompe, c'est la santé de l'homme qui est en cause.
Plus de 20 millions d'oiseaux disparaissent chaque année, principalement à cause de l'agriculture intensive.
Après un bref reflux, l'épidémie de grippe menace de reprendre, selon Santé publique France, la grippe qui est portée en particulier par les enfants. Et puis, c'est une première pour des astronautes de la Station Spatiale Internationale. 4 d'entre eux sont en route pour la Terre de manière anticipée. Ils ont quitté la station hier en raison d'un problème de santé d'un des astronautes. Son état est stable selon la NASA.
Merci beaucoup Charles Bonner. La grippe justement, ce sera peut-être bientôt un mauvais souvenir grâce à l'avancée de la recherche médicale. C'est ce que nous explique Nicolas Bouzou dans un instant dans Un Monde de Progrès. Il est 6h39 sur Radio Classique.
Les ETI sont essentielles dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Del Sol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons au-delà des conseils juridiques et judiciaires, une véritable stratégie d'entreprise. Del Sol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Del Sol Avocat, retrouvez les voix de l'économie chaque matin sur Radio Classique.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous éco de la matinale de Radio Classique.
La matinale éco de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Un monde de progrès avec Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Ce matin, vous nous dites que la grippe qui a frappé beaucoup d'entre nous ces dernières semaines pourrait bientôt n'être plus qu'un mauvais souvenir.
Absolument, c'est un événement qui a été peu commenté, mais qui est absolument majeur. Le laboratoire pharmaceutique américain Merck vient de racheter pour 9 milliards de dollars une biotech californienne qui s'appelle Cidara, qui a réussi un essai clinique de phase 2 sur un vaccin appelé CD388. Je dis un vaccin, ça n'est pas un vaccin à proprement parler, mais plutôt un antiviral qui protège contre toutes les grippes connues. Il peut protéger aussi éventuellement contre les grippes qui n'existent pas encore. Dans un essai qui porte sur plusieurs milliers de volontaires, une seule injection a montré une efficacité de l'ordre de 75%. C'est très au-dessus des vaccins saisonniers actuels, qui ont une efficacité qui plafonne entre 30 et 60%. Ce nouveau vaccin, cet antiviral plus exactement, il est aujourd'hui en phase 3, ce qui signifie que l'on pourrait espérer une commercialisation en 2028. Vous voyez, ça peut aller vite.
Qu'est-ce qui rend ce traitement vraiment différent des vaccins classique?
Depuis des décennies, on court après la grippe. En réalité, on fabrique chaque année un nouveau vaccin en essayant de deviner quelle est la souche qui va circuler. Alors ce nouveau vaccin, CD388, il change totalement de logique. Il cible un mécanisme biologique qui est commun à tous les virus grippaux, un mécanisme qui est indispensable à leur reproduction. Ce qui signifie que même quand le virus mute, le médicament continue de fonctionner. On ne parle plus d'une protection saisonnière incertaine, mais d'une protection structurelle durable. On n'aura donc plus besoin de faire un vaccin avec une efficacité limitée. Là, on sera vraiment très correctement protégé, très bien protégé pendant tout l'hiver. En outre, son efficacité est indépendante du système immunitaire. Ça signifie que des personnes fragiles seraient parfaitement protégées. Je vous rappelle, Stéphane, que la grippe cause environ 9000 décès par an en France, génère 20000 hospitalisations et des effets secondaires pour les personnes fragiles, notamment des troubles cardiovasculaires.
Avec des conséquences évidemment sanitaires et économiques considérables.
Oui, considérable. La grippe provoque chaque année des centaines de milliers de morts dans le monde, des millions d'hospitalisations, des milliards de dollars, d'euros, de pertes économiques pour les systèmes de santé, mais aussi pour les entreprises. Un vaccin universel changerait la donne. Cela générerait une baisse massive des hospitalisations, une protection des populations âgées et fragiles, et donc une réduction des coûts de santé. Ça tombe bien, c'est très exactement ce qu'on cherche.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou, on se retrouve demain.
Vous aussi, vous cherchez ? Où et comment placer votre argent ? Pour vos placements en bourse ou en assurance vie, rien de plus simple avec Bourse Directe. Suivez nos formations, investissez, épargnez, le tout à moindre frais. Et ça, c'est important. Avec Bourse Directe, vivez vos placements autrement. Risque de perte en capital. Courtier d'assurance numéro Orias 08 044 344. Communication promotionnelle.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Avec GSF Propreté et Services, acteur du service aux entreprises et sa filiale Pénélope, leader de l'accueil.
Trois titres à la une de l'économie. 150 000 ménages français sont désormais en situation de surendettement malgré l'amélioration du pouvoir d'achat. Le nombre de dossiers déposés à la Banque de France a augmenté de pratiquement 10% l'an dernier. Nouvelle baisse attendue pour le taux du livret A. Il devrait passer de 1,7 à 1,4% à compter du 1er février prochain. Conséquence du reflux de l'inflation. Et puis, les ventes mondiales de voitures électriques ont augmenté de 24% l'an dernier et sans surprise la Chine est désormais le premier marché mondial pour la voiture électrique. Malgré l'amélioration du pouvoir d'achat en France depuis 2 ans, le surendettement des ménages continue de progresser. Le nombre de dossiers déposés l'an dernier à la Banque de France a augmenté de pratiquement 10%. C'est 3 fois plus que prévu, après déjà une flambée de plus de 10% l'année précédente. Désormais, ce sont 150 000 ménages français en situation de surendettement. Parcours de vie, hausse des prix, les raisons sont multiples, comme le montre le cas de Karine qu'Éric Kioch a pu interroger.
Malgré un salaire de 4 200 € net par mois, Karine, cadre dans l'aéronautique, finit tous les mois dans le rouge.
Je me retrouvais à découvert. J'ai dépassé 1 000 € par mois. Et tous les mois, je me retrouvais 1 000. Encore il y a 2 semaines, j'ai demandé à mon fils s'il pouvait me prêter 200 € pour acheter à manger, parce que du coup, mes comptes sont bloqués. On n'est pas fiers.
Pour boucler ses fins de mois, elle souscrit à des crédits. En 15 ans, elle accumule 110 000 € de dettes.
J'ai divorcé en 2009. J'ai gardé la maison. J'ai fait un rachat de crédit, 2 enfants à charge, pension alimentaire très faible. Donc du coup, là, j'ai commencé à faire des crédits. Il y a une facilité de faire un crédit sans demander mes relevés bancaires pour montrer que j'étais déjà bien au-dessus.
Ces 5 dernières années, la situation de Karine s'est aggravée. Alors, il y a 3 mois, elle a finalement franchi les portes de la Banque de France pour déposer un dossier de surendettement.
Par exemple, j'allais à Lidl, je faisais mes courses off. J'en avais pour 80 €. Après le Covid, on en avait pour 120 €. Après, entre l'eau et l'électricité qui a énormément augmenté, j'en ai pour presque 200 € par mois, ce que je n'ai pas.
Son dossier a été accepté en décembre, mais ses créanciers viennent de le contester. Karine attend désormais de pouvoir se défendre devant un juge.
Et pour les ménages qui ont les moyens d'épargner, on connaîtra ce matin l'évolution du taux du livret A. Il va diminuer à partir du 1er février en raison du recul de l'inflation. Il devrait retomber à 1,4% contre 1,7% actuellement, c'est-à-dire moins de la moitié du taux qui était proposé l'an dernier. Pourtant, cette baisse de taux ne devrait pas pousser les Français à mettre moins d'argent de côté. Ils le feront tout simplement différemment, selon l'économiste Éric Dor de l'IESSEG Business School.
Il y a quand même une série de facteurs anxiogènes qui entretiennent quand même une accumulation d'épargne de précaution de la part des Français, des inquiétudes sur l'emploi, des inquiétudes sur la fiscalité vu la dégradation des finances publiques, des incertitudes sur l'activité économique générale à cause de tous les troubles géopolitiques qui nous menacent. Mais par contre, il pourrait très bien bouder le livret A au profit d'autres instruments d'épargne, par exemple au profit de produits proposés par les compagnies d'assurance pour chercher du rendement.
Faut-il taxer les œuvres d'art ? Le débat revient à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026. Les députés vont examiner aujourd'hui ou demain, en fonction de l'avancée des discussions, un amendement déposé par le Parti socialiste. Il vise notamment à intégrer les œuvres d'art dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, en les considérant comme des actifs improductifs au même titre que les yachts ou les assurances vie. Décision qui inquiète évidemment le monde de l'art, artistes, collectionneurs et galliéristes. Zoé Pallier.
Dans la galerie parisienne de Charlotte Kétabi, des toiles abstraites aux couleurs vives. 80% des collectionneurs avec qui elle travaille sont français et aujourd'hui, elle craint pour son activité.
Si les collectionneurs sont taxés sur leurs œuvres d'art, ils vont soit arrêter de collectionner, soit délocaliser leur collection. Le marché de l'art est très fluide. On peut acheter de l'art aux États-Unis, on peut acheter de l'art en Angleterre, en Italie, en Belgique. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'ils stockeront leur patrimoine ailleurs et les galeries françaises et les artistes français en souffriront. Par exemple, une galerie comme la mienne, une jeune galerie, fermera pour sûr.
Mais la semaine dernière, en commission des finances à l'Assemblée nationale, l'amendement qui permet de taxer les œuvres d'art a été adopté. Hervé Berville, député Ensemble pour la République, s'y opposera en séance publique.
Nous allons réduire fortement la présence de ces œuvres dans le patrimoine public, parce qu'il y a plus de 250 millions d'euros de collections privées qui viennent nourrir les collections publiques. Et puis, nous allons surtout ralentir la création. C'est un très, très mauvais signal pour le milieu de l'art, des galeristes et de tous ceux qui créent.
Pour les syndicats du secteur, cet amendement risque même de faire perdre à la France son statut de premier marché de l'art européen.
Comment financer le réarmement de l'Europe ? Le directeur général de la Deutsche Bank estime que l'opération pourrait être financée par un endettement commun sur le modèle des Corona Bonds, c'est-à-dire l'émission obligataire européenne qui avait été réalisée au moment de la crise sanitaire. C'est une prise de position importante, puisqu'en Allemagne, l'idée d'emprunter en commun avec les autres pays européens est un sujet tabou. La France, en revanche, y est favorable pour financer le réarmement de l'Union européenne. L'augmentation des droits de douane américains a permis de réduire le déficit public des États-Unis l'an dernier. Il atteint 1 670 milliards de dollars. dollars en 2025 tout de même. C'est 330 milliards de moins que sur l'année précédente. Ce n'est pas la première fois que le déficit public américain recule d'une année sur l'autre. Il avait drastiquement diminué, notamment pendant la crise sanitaire. Les ventes mondiales de voitures électriques ont augmenté de 24% l'an dernier avec 13,6 millions de véhicules immatriculés. Le chiffre frôle même les 21 millions si on ajoute les modèles hybrides. Et sans surprise, la Chine désormais est le premier marché mondial de la voiture électrique, Eric Mauban.
Effectivement, 8 millions de voitures 100% électriques vendues en Chine l'an dernier, c'est une augmentation de 26% par rapport à l'année précédente. Toujours en volume, l'Europe en a vendu un peu moins de 3 millions, ce qui constitue toutefois une progression très honorable de 31%. En revanche, en Amérique du Nord, les ventes ont reculé de 6%. Vous le voyez, le marché est donc très hétérogène. Même constat sur le segment des voitures hybrides. Elle rencontre un franc succès en Europe avec une progression des ventes de 38%, mais de seulement 6% en Chine et 8% en Amérique du Nord. Alors attention, il faut s'attendre à des changements de tendance en 2026. En effet, le gouvernement chinois va lever le pied sur les aides à l'achat. Même chose aux États-Unis. En revanche, une progression des ventes de voitures électriques de l'ordre de 14% est attendue en Europe en raison des contraintes réglementaires et des dispositifs de soutien nationaux.
Merci beaucoup, Eric Mauban. Dans l'actualité entreprise, l'opérateur télécom Free, lourdement condamné après une fuite de données, la CNIL lui a infligé une amende de 42 millions d'euros, nettement supérieure aux sanctions qui avaient déjà été prononcées. Dans ce type d'affaires, en 2024, les données de 19 millions de clients avaient été dérobées par des pirates informatiques. La Commission nationale informatique et liberté avait reçu plus de 2500 plaintes de la part de clients victimes de ce piratage. Les négociations patinent dans la grande distribution. Une charte de bonne conduite avait pourtant été instaurée par le gouvernement. Elle incitait les distributeurs à trouver un accord avec les petits producteurs avant le 15 janvier. Dans le cadre des négociations annuelles sur les prix, pour l'instant, seuls 22% des contrats ont été signés selon les chiffres de la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France. La grève des médecins libéraux se termine aujourd'hui. Elle aura duré 10 jours. L'objectif était de protester contre certaines mesures du projet de loi de finances de la Sécurité sociale. La question du revenu des médecins est-elle le seul sujet pour réduire l'ampleur du déficit de la Sécurité sociale? L'économiste Frédéric Bizard sera l'invité des Voix de l'économie tout à l'heure à 7h15 pour en parler. Les marchés financier. La bourse de Paris a terminé hier soir en baisse de 0,19%. Le CAC est à 8330 points. 6h51 sur Radio Classique. Le chiffre du jour, 62 millions de tonnes, c'est le volume de déchets électroniques produits en une seule année au niveau mondial. Et selon les projections des Nations Unies, ce volume va encore grimper dans les prochaines années pour atteindre 82 millions de tonnes en 2030. Pour donner un repère, ça représente 8200 fois le poids de la Tour Eiffel. On en parle avec Arnaud Roulier. Bonjour.
Bonjour, Stéphane Pelladi.
Vous êtes membre fondateur du Cercle des loueurs indépendants. Les équipements informatiques en fin de vie représentent évidemment une proportion significative des déchets électroniques. Qu'est-ce que les entreprises généralement font de leurs anciens ordinateurs ?
Les entreprises, leurs anciens ordinateurs, les entreprises souvent, lorsqu'ils sont achetés, ont du mal à s'en défaire. On veut pousser un équipement jusqu'au bout, on croit faire des économies en poussant un équipement jusqu'au bout, alors qu'il y a d'autres modes d'acquisition des équipements qui permettent de traiter la seconde vie des équipements.
Et si on essaye de le faire durer longtemps, cet équipement, il devient très obsolète, et on ne peut pas le réutiliser.
Tout à fait, avec des risques qui peuvent être importants pour l'entreprise.
Il y a un tiers des entreprises à peu près en France qui louent leurs équipements informatiques, c'est-à-dire qui n'en sont pas propriétaires. Pour autant, est-ce que la location permet réellement d'éviter le gaspillage et les déchets ?
Tout à fait, la location est axée sur l'usage. Et le loueur, dès l'origine de l'opération, prévoit la seconde vie de l'équipement.
C'est-à-dire qu'on n'attend pas que l'équipement soit obsolète.
On n'attend pas que l'équipement soit complètement obsolète. Un équipement est prévu pour une première utilisation chez un client, pour un besoin précis. Et pour un équipement informatique, 3-4 années plus tard, cet équipement pourra être réutilisé dans une autre entreprise ou dans une organisation, une association qui aura des besoins plus modestes.
Et avec plusieurs entreprises utilisateurs du même équipement, on arrive à un usage qui finalement sera beaucoup plus long ?
on peut réussir à prolonger complètement la vie d'un équipement.
De quelle manière est-ce que les loueurs de matériel intègrent la seconde vie, comme vous dites, des équipements informatiques dans leur modèle économique? Est-ce que la valeur résiduelle de ces appareils est incluse dans ce modèle dès le départ?
Tout à fait. Et le loueur, en fait, va bien au-delà du financement, puisqu'il prévoit, il met à disposition, il prévoit tout un service de logistique pour récupérer les équipements à l'issue du contrat de location. Et cette valeur économique du bien, il sait effectivement la valoriser.
Ouais. Et ce n'est pas l'entreprise qui doit directement s'en occuper.
Et ce n'est pas au locataire de s'en occuper.
Qu'est-ce que les loueurs font de leurs anciens équipements une fois qu'ils ont eu plusieurs utilisateurs? Est-ce qu'on le sait réellement?
Oui, il y a plusieurs objectifs pour cette seconde vie. Il y a d'abord un objectif économique, je l'ai dit, une entreprise plus modeste ou une association va être ravie de pouvoir bénéficier d'un équipement de gamme professionnelle pour un besoin plus modeste. Il y a des objectifs RSE, écologiques, et on voit nombre de petites collectivités, des communes qui sont intéressées pour prendre une partie de leur parc informatique en équipement de seconde main. Et il y a également des raisons techniques pour faire de la maintenance de parc informatique, récupérer des pièces. Voilà, il y a plusieurs objectifs qui peuvent être poursuivi par le loueur pour cette seconde vie.
Je ne vais pas vous apprendre que certaines entreprises font du greenwashing, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les déclarations, entre la communication et leur action réellement sur le terrain. Vous êtes l'un des cofondateurs du Cercle des loueurs indépendants. Vous avez créé un label qui évalue les bonnes pratiques justement des loueurs de matériel informatique. C'est pour éviter justement le greenwashing ?
Exactement. Ce label Qualys, qui a été créé récemment par le Cercle des loueurs, vise justement à encadrer le métier et à évaluer les entreprises, les loueurs, sur leur capacité à avoir une transaction à la fois transparente, une maîtrise des risques et une traçabilité des matériels. Et le tout, tout en mesurant également la gouvernance de l'entreprise et sa sensibilité aux enjeux RSE.
Mais est-ce qu'un label comme celui-ci rassure notamment les grandes entreprises? On sait qu'elles sont de plus en plus regardantes sur justement ce qu'elles font de leurs anciens matériels, parce qu'elles communiquent de plus en plus sur ce qu'on appelle les données extra-financières.
Exactement, ce label vise non seulement à attirer tous les standards du métier vers le haut, mais à rassurer les entreprises, quelle que soit leur taille, sur le choix de leurs prestataires en location.
Merci beaucoup Arnaud Roulier d'être venu ce matin, membre fondateur du Cercle des loueurs indépendants. Louer son matériel informatique plutôt que de l'acheter, c'est aussi une façon de réduire le volume des déchets électroniques. Je rappelle ce chiffre, 62 millions de tonnes, c'est le volume de déchets électroniques produits en une seule année au niveau mondial. Dans un instant, le journal de 7h vous sera présenté par Lénaïque Monnier et puis David Abiker, bien sûr, pour la matinale jusqu'à 9h. Il est 6h56.
Envie de confort? Envie de choix? Envie de grande marque? Envie de Topair?
En ce moment, l'espace Topair vous propose des conditions exceptionnelles sur les plus grandes marques de mobilier contemporain. Caligaris, Stressless, Imola, Néologie, Ralph M, Mobilier de France, Duvivier. Canapé, canapé-lit, fauteuil de relaxation, table de repas, armoire-lit, dressing.
Espace Topair, 3000 m² pour toutes vos envies. 63 rue La Convention et 147 rue Saint-Charles, Paris 15e, 7 jours sur 7. Topair.fr.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, ça le débute, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
À suivre dans un instant et jusqu'à 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390 € par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Une nouvelle perturbation à bord de la Bretagne et la Normandie, Lénaïque Monnier.
Oui, et depuis 6h ce matin, Météo France a placé le Finistère en vigilance orange pour des risques de pluie et d'inondation. Ailleurs, le temps s'annonce plus calme, même si le ciel restera nuageux. Cet après-midi, la perturbation progresse vers les terres. Le soleil gagne du terrain, du Limousin jusqu'en Alsace, avec là encore de belles éclaircies. Et puis vos températures sont douces encore. Il fait 8 degrés ce matin à Paris, à Lille, à Nantes, 10 à Nîmes et 6 à Bourges. Et cet après-midi, vous aurez 13 degrés à Bordeaux, Marseille.
Marseille et Lyon, 15 degrés à Grenoble et Perpignan.
6h58 sur Radio Classique, c'est l'heure où je passe le relais à David Abiker jusqu'à 9h pour la matinale. Bonjour David.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
Et à la une ce matin, le Danemark à tout prix.
Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale. Si nous n'y allons pas, la Chine va y aller et la Russie aussi. Je ne peux pas compter sur le Danemark pour se défendre tout seul. Trump persiste et signerait bien un chèque de plusieurs centaines de milliards de dollars pour s'offrir l'île danoise, de quoi déclencher une mission militaire européenne et la tenue d'un conseil de défense ce matin à l'Elysée. On vous en parle dans les journaux de la matinale et avec notre esprit libre du jour, Franz-Olivier Gisbert à 8h40. Dans le journal de 8h également ce matin, recueilli par Zoé Pallier, le témoignage exceptionnel d'un Iranien qui a fui Téhéran et qui raconte la répression et les morts qui s'accumulent face à l'impitoyable répression des mollahs. Qui reste-t-il pour soutenir ce régime et lui acheter son pétrole? L'analyse de Christian Macarian à 7h40. 7h45, Marc Bourreau nous parle des fausses des copieurs, des contrefacteurs et des faux monnayeurs. Enfin, David Barou, 8h05, s'intéresse au marché de la sardine. Les Français en achètent 80 millions de boîtes chaque année. Enfin, 8h15, pendant que Trump réinvente l'impérialisme, Poutine pousse ses pions en Ukraine, mais également s'empare des esprits avec une propagande qu'il ne faut pas sous-estimer. Le chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales, Viktor Sotovsky, publie au CERF « Penser comme Poutine, une menace pour nos démocraties ». Il sera mon invité à 8h15. Bon réveil sur Radio Classique, il est 7h.
La matinale de Radio Classique avec David.